Pour continuer dans cette danse matinée professionnelle, donc cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir trois autrices que j'aime énormément, à tous les niveaux d'ailleurs, là je suis bien entourée.
C'est réciproque.
Donc, Flore Vesco, Joe Witek et Caroline Solé.
Bonjour.
Donc, vous les connaissez toutes certainement, on ne les présente plus. Elles sont autrices vraiment pour la jeunesse, cette fois-ci, par rapport à la table ronde précédente. Elles écrivent pour la jeunesse essentiellement, pour les enfants, pour les adolescents, à travers des romans très différents les unes des autres et qui montrent bien à quel point la littérature adolescente est un lieu d'invention formelle, d'invention narrative, de décloisonnement des genres, puisque c'est un peu le thème qu'on a voulu donner quand même aussi à ce salon. Et je trouvais que Joe, Caroline et Flore étaient vraiment aptes à représenter ce décloisonnement des genres, puisque Flore réécrit des contes traditionnels de manière inventive, poétique, et aussi avec des enjeux contemporains très forts, et donc dans une réécriture qui est à la fois stylistique et sociale, d'une certaine manière. Caroline a pu questionner et écrire dans D'après mon adolescence, un roman qui est presque aussi une autofiction, où elle aussi utilise le tu en parlant à l'adolescente qu'elle a été, donc on est au cœur de son intime d'adolescente, et en même temps, c'est totalement romanesque, donc on est dans ce mélange-là. Et dans Neb, elle questionne le jeu vidéo en ligne et le numérique, donc c'est aussi une forme de décloisonnement et de thématique intéressante. Et vous le verrez, je le montrerai au cours de la table ronde. En plus, elle ajoute visuellement dans ses romans des éléments du numérique, en fait, de SMS, etc. Et donc Joe, qui a écrit autant des thrillers que des romans sociaux, mélange les genres dans tous ses romans, d'une certaine manière, puisque quand elle écrit des thrillers, il questionne aussi, bien évidemment, sur l'intime, sur le social. J'ai pris aussi Premier arrêt avant l'avenir, parce que c'est un livre qui est politique et romanesque, ce qui est très rare, et ce qui est très rare en roman ado, notamment. Je pense qu'il y en a très peu, je n'en connais même pas vraiment d'autres qui sont directement à parler de Proudhon, par exemple. Donc c'est intéressant vraiment ce roman dans le décloisonnement. Et bien évidemment, merci Flore. Et puis évidemment, j'ai pris Chambres adolescentes puisqu'il y a l'exposition dans les médiathèques de la ville, qui est un énorme projet qui décloisonne tout puisqu'elle mélange le récit, le documentaire, l'intime, le sociologique et la photographie, en faisant cet objet qui est un ovni dans la littérature ado et qui accompagne en plus une proposition concrète, matérielle d'exposition. Donc on est vraiment au cœur de cette thématique sur l'adolescence et le décloisonnement. Et plus je rencontre d'ados, plus je les vois et parle avec eux, plus je me rends compte que le décloisonnement est aussi un bon biais ou faire entrer la discussion, le débat avec eux, justement, de ne pas sacraliser les choses, de ne pas les figer dans quelque chose d'immuable et de fermé. C'est aussi un moyen de les amener justement en littérature et vers des genres littéraires extrêmement différents. Voilà pour présenter un peu le sujet. Et donc là, l'idée, c'est de discuter avec vous un peu de tout ça à travers, évidemment, vos secrets de fabrication, vos propres questionnements d'autrice, vos propres manières d'écrire et aussi vos intimes, parce que souvent, c'est une question qui revient quand on dit qu'on écrit pour les ados, pourquoi tu écris pour les ados? Et nous, c'est vrai qu'on en a un peu marre parfois de cette question de pourquoi pour les ados, pourquoi pas pour les adultes. Souvent, cette question peut sous-tendre à une forme de petit mépris latent. Pourquoi tu fais pas de la vraie littérature? Voilà, alors que, et bien évidemment, on est tous convaincus et toutes dans cette salle que c'est de la vraie littérature et de la grande littérature. La première question que je vous pose, c'est un peu sur l'idée de... Donc on est des adultes, on écrit pour des adolescents. Est-ce que pour vous, cette littérature qu'on fait, elle bâtit un pont un peu entre les adultes que nous sommes et nos ados lecteurs? Et est-ce que, avant de bâtir ce pont avec nos adolecteurs, c'est un pont qu'on crée en nous-mêmes entre l'ado qu'on a été et l'adulte qu'on a été? Et évidemment, mes yeux se posent vers Caroline, dont je vais lire un extrait de ce remarquable roman d'après mon adolescence que j'ai adoré, où elle parle de manière extrêmement honnête et précise à l'ado qu'elle a été. Et elle ajoute des extraits aussi de son journal intime et d'éléments réels de son adolescence. Je vous lis un extrait, j'aime bien partir de l'écriture vraiment. Il va bien falloir qu'on en parle de cette première fois. Mais peut-être n'es-tu pas sûre de vouloir savoir finalement. Parce que mon histoire jusqu'à présent, elle ne te fait pas rêver. Tu fantasmes un aventurier et voilà que je te présente un paumé. Un homme qui dort dans un sac de couchage, dans la rue, sur un bout de carton. C'est quoi encore ce plan foireux ? À toi de me dire. Qu'est-ce qui t'attire chez lui ? Le fait qu'il crache du feu ? Il te fait penser à un dragon qui éloigne le danger, tient à distance les autres. Mais c'est qui ? C'est qui ? Ce n'est pas moi qui ai pris le bus, puis le ferry pour aller à Londres. C'est toi, tête de nœud. Et donc, tête de nœud, c'est Caro ado. Caro, est-ce que tu peux ? Caro, qui n'est plus du tout une tête de nœud, je tiens à vous le rassurer.
Alors oui, il y a beaucoup de choses. Tu veux que je parle du lien entre... Ouais, oui. Alors bon, c'est effectivement un roman très particulier, puisque c'est pas que de la fiction. Je suis partie de ma propre adolescence, effectivement. J'avais déjà écrit plusieurs romans pour adolescents. Et j'avais gardé tous mes écrits de mes 10 ans à mes 18 ans dans une caisse. Et à chaque fois, je passais devant cette caisse et je me disais quand même, j'écris pour les ados et j'ai de la matière, quoi. J'ai tous mes journaux intimes d'ados. Ce serait pas mal d'aller m'y replonger. Tu vois, le début, il est là. Et en même temps, j'ai une adolescence douloureuse, très, très douloureuse. Donc, j'avais aucune envie de rouvrir cette caisse et de m'y replonger. Et pour moi, l'écriture est arrivée à ce moment-là où je me suis dit, si c'est un projet littéraire, si j'ouvre cette caisse et que je relis tous mes journaux intimes d'adolescence avec un projet d'écriture, peut-être que j'aurai le recul nécessaire pour supporter ce que je vais relire. Et probablement qu'il y avait à ce moment-là un besoin effectivement de dialogue entre l'ado que j'ai été et l'adulte que j'étais devenue, où il y avait encore des frictions, puisque j'ai une adolescence assez mouvementée, avec des cracheurs de feu notamment. Donc ça a été compliqué, je me suis mise dans des situations compliquées. Et en tant qu'adulte, je pense que je m'en voulais encore. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je me suis fait souffrir, etc. autant ? Et il y avait sûrement aussi, et ça je m'en suis aperçue après, le dialogue adulte-ado, l'ado qui dit à l'adulte, mais qui t'es devenu alors ? Est-ce que vraiment tu as fait en sorte que j'ai la vie dont je rêvais, etc. Et c'est comme ça que s'est créé ce projet de dialogue, effectivement, entre l'adulte, mais l'adulte romancière, avec ce regard aussi de chercher voilà, pourquoi, en quoi l'écriture m'a aidée, peut-être un peu, pendant ces années-là. Et c'est instauré naturellement un dialogue entre nous. Nous, ça fait un peu bizarre de parler de soi.
Entre toi du passé et toi du présent. Non, mais oui, vous êtes
entre les deux. Ce que je trouve intéressant dans ce roman, c'est que c'est quelque part l'incarnation de tout le travail d'écrivain et d'écriture, puisqu'on creuse, de toute façon, on puise dans notre intime, même quand on écrit du thriller, mais tu l'incarnes de manière consciente, alors que souvent, c'est inconscient. C'est-à-dire, on se dit, tiens, inconsciemment, on se dit, ah ben, en fait, on a parlé de notre adolescent. On sait que quand on écrit pour les adolescents, on puise dans l'adolescent qu'on a été, dans l'adolescente qu'on a été quand même, qui est présent en tout adulte, heureusement, sinon on serait des êtres rigides. Mais voilà, je trouve que ça c'est fort, parce que ça montre là où est ça. Et par ailleurs, tu décloisonnes aussi, parce que t'es dans un mélange de romans et de témoignages qui est assez détonnant, et pour le coup ça se lit et ça se dévore de manière extrêmement fluide. Et alors Flore, qui réécrit des contes, pareil, on pourrait se dire que finalement, réécrire un conte, c'est pas forcément intime, etc. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, si, parce que tu y mets des choses très intimes, est-ce que ça part aussi d'une frustration de bah, quand tu étais petite, quand bah, ce qu'on te proposait comme conte, vraiment, c'était limité. Est-ce que cette envie de réécrire de manière tellement féministe aussi, hein, les contes, ça part de quelque chose que tu as ressenti enfant et ado ? Est-ce que c'est vraiment ton choix d'adulte, là, de réécrire comme ça ?
Non, je pense que c'est plus un choix d'ado que d'adulte. Dans la mesure où, enfant, on absorbe beaucoup les contenus sans les remettre en question, je crois. On commence à les remettre en question à l'âge adolescent, mais je ne suis pas sûre d'avoir relu les contes adolescentes. Je suis retombée dessus plus tard dans ma vie d'étudiante. Non, par contre, ce que disait Caroline et que je trouve intéressant, c'est que en tant qu'adulte, quand on écrit pour la jeunesse, on est constamment en train de rouvrir cette petite porte de l'adolescence. Par contre, elle est dure à ouvrir, cette porte, et on le fait de façon inconsciente. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu douloureux, en fait. Hein. C'est une période... pour moi, je trouve que c'est une période qui est chargée de peur. Dans D'or et d'oreiller, elle a très peur de sa première fois. Je trouve que on a beaucoup beaucoup parlé des premières histoires d'amour en littérature jeunesse, et souvent, c'est vécu comme une sorte de bonheur, des mois, l'espèce, le transport de la première fois, et moi je crois que m'a manqué peut-être ça en tant que lectrice, des histoires d'amour qui disaient mais attendez, ça fait super peur, le premier baiser, les premières caresses, etc. Et donc revenir à ces peurs d'adolescente, c'est aussi intéressant. Bon, d'abord ça nous travaille, c'est quelque chose d'intime, d'enfoui, et puis ça permet aussi peut-être de faire passer un message sur ce que c'est que l'adolescence du côté difficile, douloureux, et de le rappeler à tout le monde pour que peut-être des lecteurs, des lectrices de cet âge-là se sentent moins seuls.
Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que tu passes par le conte et par des personnages
archétypaux. J'ai pas parlé du conte.
Archétypaux aussi, il y a la marraine, il y a le prince, etc. Et tu arrives à, et ça, je pense que c'est assez, c'est aussi une force de ton écriture, et c'est original, c'est-à-dire que tu arrives à parler de ces thèmes-là à travers et en faisant le choix de contes qui ont déjà existé aussi, où tu aurais pu imaginer
tout à
des
fait.
Histoires, tu vois.
Alors, on sort de la forme du conte, hein, justement. On moule les éléments narratifs du conte, qui sont donc forcément laconiques, extrêmement courts, dans la forme romanesque, qui implique de donner plus d'épaisseur aux personnages, leur donner un passé, les situer historiquement, leur donner un lieu de vie, etc. Donc, on n'est plus dans l'archétypal pur du conte. Par contre, le conte a plein de latences cachées, d'interprétations psychanalytiques, symboliques autour de toutes ces questions-là. En fait, ce qui me plaisait dans La princesse au petit pois, c'est que l'objet qui est celui de la quête d'amour, c'est pas une chaussure comme dans Cendrillon ou un anneau comme dans Peau d'âne, c'est un lit. Et là, on a quand même un jeune homme qui cherche son épouse et il veut celle qui sera la plus sensible dans un lit parce qu'il y a caché un petit pois sous 10 matelas. Et ça, c'est quand même chargé d'une symbolique qui n'est jamais dite dans le conte, et qu'une fois qu'on transpose cette histoire-là dans un roman avec beaucoup plus de pages, on a loisir d'aller creuser cette question-là.
Je vais lire un extrait qui peut un peu incarner ça, parce que tu rajoutes aussi toujours un petit peu d'humour, et c'est vrai que les contes chez Flore, c'est un lieu d'exploration de la sensualité absolument fabuleux et indéniable. Donc, Adriane se pencha vers elle et il se mit à lui conter des histoires de pieds. Sadima n'aurait pas pensé que cela faisait un sujet de conversation. Il décrivit ses premières chaussures préférées, ou le régal de laisser des empreintes dans la neige fraîche. Tout peut être lu toujours à plusieurs niveaux avec Flore.
J'avais totalement oublié ce passage, j'adore. Non mais vas-y, les histoires de pieds, j'étais genre, mais oui, c'est vrai. C'est bien, c'est un choix original d'extrait, j'aime bien.
Ce qui m'a fait rire et m'a fait penser à toi.
Tout à fait. Excellent choix.
Alors, elle écouta, d'autant plus attentive à ses mots qu'il les déposait presque sur ses lèvres. Il racontait comment, dans son lit, il roulait en boule les draps autour de ses pieds, en un petit nid. Cette causerie délicieusement anodine et domestique, il la souffla au creux de son oreille. Juste avant, il en mordilla le lobe pour que sa confidence effleure la peau humide et si sensible. Cette fois, pour de bon, Sadima faillit perdre pied. Elle lui serra la taille de toutes ses forces, et cela ne sembla pas lui déplaire. À son tour, elle compta les bottines à lacets des sœurs Watkins, 60 œillets à L3, presque une heure pour les chausser. Elle dit aussi le plaisir d'écraser des vestes de loup en forêt. La coquille blanche et molle éclate sous le talon dans une volute de sport. Elle avait la tête sur le bras d'Adrien. Ou d'Adriane ?
Adriane, on peut, ça Adriane. Fait plus anglais. Cloisonnons, partons en Angleterre.
La joue contre le biceps arrondi en dos de souris, elle finit par s'assoupir, le nez en creux, au creux de son coude, le front posé sur sa poitrine qui se soulevait doucement. Donc, très métaphorique tout
oui,
ça.
Oui, complètement. Non mais bravo, non mais très bon choix. J'avais totalement oublié que j'avais mis tout ça là-dedans. Et du coup, en le réentendant... Non mais c'est drôle, parce que ça fait vraiment... Enfin, c'est long un roman et on l'écrit sur plusieurs années, puis ensuite il sort et puis bah, voilà, la vie fait que. Donc j'avais réellement plus ou moins oublié ce passage. Et déjà tu le lis, donc c'est assez génial. Et en plus tu me le rappelles et il est effectivement plein de symbolique, complètement.
Voilà, donc c'est effectivement là où on voit comment bah, la Flore met cet intime de cet éveil à la sensualité à travers une scène et avec effectivement des métaphores filées. Souvent, je lirai un autre exemple quand on parlera du style. Et alors, pour finir sur ce truc de l'intime et cette quête, parce que nous sommes adultes, nous allons parler à des ados et entrer dans leur intime, ce qui peut être aussi quelque part, nous aussi, on pourrait dépasser juste un sentiment d'imposture, juste par rapport à ça, finalement, de se dire, nous, de quel droit, adultes, on va s'adresser à des adolescents et des adolescentes ? De quel droit on va aller aborder la sexualité adolescente que nous ne sommes plus ? Évidemment, en puisant dans nos propres souvenirs, évidemment aussi en étant
d'une autre génération.
Oui, en étant aussi entouré d'adolescents et d'adolescentes, en pouvant les questionner, en pouvant leur parler, s'ouvrir à eux, entendre leurs réponses réellement. Et ce que l'on fait toutes, hein, toi pour le numérique, toi Joe justement sur la photo, et aussi en essayant d'être à la fois sincère par rapport à ce qu'on a été, à la fois honnête par rapport à ce qu'ils sont. Et Joe est allé donc encore plus loin dans cette... Je trouvais ça intéressant parce que c'est trois manières tellement différentes d'aller aborder l'intime. C'est-à-dire que Joe, elle est allée au cœur de l'intime, elle est allée dans les chambres adolescentes. Ce qui était un pari et ce qui était difficile parce que justement, les adolescents, ils aiment que leur chambre, ce soit leur espace. Et l'adulte n'a pas à rentrer dans la chambre de l'ado. Donc c'est comment faire ça, comment rentrer dans la chambre de l'ado sans qu'il se sente dépossédé de son espace, sans qu'il se sente voilà, envahi, trahi, et puis il n'a pas forcément envie d'ouvrir sa porte de chambre à des adultes. Donc il fallait quand même à la fois une grande finesse, à la fois un énorme respect de la part de Joe pour pouvoir être accueilli dans cet espace-là, et à la fois les connaître aussi quand même. Et donc je lis juste le tout début de Chambre adolescente pour montrer son projet un petit peu, et après je te laisse la parole. D'abord, ce fut un constat. Les jeunes que je rencontrais en classe, dans le cadre de mon métier d'autrice, étaient des êtres curieux, pensants et doués d'une réjouissante curiosité. Ça fait du bien d'entendre ça.
Tu veux dire qu'ils ne sont pas tous teubés et mous et inintéressés ?
La joie est une résistance et il ne faut pas rentrer toujours dans le discours de toute façon c'est foutu, etc. Parce que c'est de la manipulation de nous faire dire ça aussi. De se répéter tout le temps, oh de toute façon les ados maintenant ils sont que devant les écrans, c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est jamais mort. De nos échanges échevelés, je sortais souvent bouleversée et chaque fois je me disais, quel dommage qu'on ne les entende pas au-delà du cadre scolaire. Pourquoi les personnes adolescentes sont-elles si invisibles et inaudibles dans nos sociétés hyper communicantes ? Et surtout, pourquoi les adultes contemporains les jugent-ils si mal ? De cette dérangeante réalité naquit le besoin d'aller écouter longuement ces jeunes, hors du cadre scolaire justement, chez eux, et par extension dans leur petit chez eux, c'est-à-dire leur chambre, boîte réelle et de l'imaginaire, comme l'a décrit si bien Michel Perrault dans son inspirante histoire de chambre au seuil. Donc là, on est au cœur de ton projet. J'aime beaucoup cette idée de temps long aussi, parce que je crois que c'est aussi ça, ce rapport à l'écriture, ce rapport aux adolescents et ce rapport à l'intime. Rien n'est immédiat là-dedans.
Non, il fallait absolument qu'il y ait ce rapport au temps très long, déjà pour arriver effectivement dans la chambre de la personne, et que cette personne ait d'abord envie de nous y inviter. C'était vraiment le projet, qu'on soit conviés par les adolescents dans leur petit chez eux. C'est vrai que c'est la chambre, c'est l'architecture du moi, du futur, la chambre adolescente, et mauvaise ou bonne, quelle que soit la façon dont on les traverse, on se souvient en général de ce manque de chambre ou de cette chambre. Pour ma part, c'était déjà la chambre de la liberté, la chambre qui allait me permettre d'échapper à une famille dans laquelle je ne me sentais pas bien. Donc j'ai trouvé ça pas mal d'aller, quitte à parler d'intime, quitte à parler de soi, quitte à parler la chambre politique, la chambre sociale, la chambre familiale, la chambre intime, oui, d'être complètement dans ce décor-là. Et voilà, ce fut très riche, mais il fallait prendre le temps puisqu'on est, on est resté 6 à 8 heures en plusieurs rendez-vous avec cette habitude peu à peu de revenir, de connaître la famille, le petit frère, les animaux, ce qui fait que quand Juliette revenait seule, puisque nous sommes deux sur ce projet, hein, Juliette Masse, photojournaliste, elle a assisté à tous les entretiens aussi. La photographie est une écriture, donc il était nécessaire que nous ayons la même manne de départ pour pouvoir travailler, elle, en portrait photographique, moi, en portrait littéraire, documentaire. J'ai du mal à dire quelle est cette écriture. Elle était très bizarre, cette écriture. Et puis ensuite, sonore. Donc, il fallait revenir plusieurs fois. Ça m'a remis au cœur de notre travail, en fait. Puisque, effectivement, à 57 ans, pourquoi ? Qu'est-ce que je fous là, en fait, toujours, hein, cette question qui est nécessaire et à chaque projet nécessaire, je crois qu'on se doit de pouvoir y répondre sur chaque projet. Et pourquoi l'adolescence, en fait ? C'est vrai qu'on nous pose cette question, ça nous agace systématiquement, mais elle est juste, en fait, quelque part, cette question. Je crois que j'y réponds encore aujourd'hui. C'est vraiment cette traversée de cet âge. Tu l'as dit, toi, ça a été très douloureux. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, hein, il me semble, dans l'auteur qui est en adolescence. Il y a quand même ce lien très fort encore avec cette histoire-là, à ce moment-là de sa vie qui est un moment du début et qui est quand même fondamental dans l'adulte qu'on va devenir. Moi, tu parlais de tes lettres, c'est intéressant. Dernièrement, j'ai retrouvé mes lettres de 20 ans et je ne peux pas les lire, en fait. Je ne peux pas les lire. En revanche, le journal intime de mes 13 ans, là, je peux le lire, et il y a quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé par rapport à ce qu'on dit. À 13 ans, je suis déjà sur la colère sociale. Tu vois. Donc, c'est ça qui me
fait.
Et à
20 ans, alors, parce que...
À 20 ans, plus compliqué. Voilà, d'autres choses arrivent. Mais tu vois, c'est intéressant quand c'est je vois. Je peux pas aller dans une littérature de l'imaginaire, moi, par exemple. Je parle déjà prostitution à 13 ans et j'ai écrit une fille de 35 ans plus tard. Donc c'est intéressant, j'aime beaucoup ce lien-là.
Oui, bah c'est sûr, en fait, c'est des choses que tu conscientises finalement, et ça qui est intéressant aujourd'hui, en te disant, tiens, à 13 ans, j'étais déjà dans le social, tous mes romans sont imbibés, et finalement, tu ne le savais peut-être pas, on ne se souvient pas forcément de tout. Donc c'est vrai que ça prouve bien que c'est ça, que c'est bien cet ado-là en nous. Et alors du coup, tous nos romans, etc., vont explorer les thèmes intemporels de l'adolescence, le passage à l'âge adulte, les premiers émois sexuels, le rapport aux parents, etc., tout ce qui fait l'adolescent aussi. Mais tous vos romans sont aussi, et ça je trouve ça très intéressant, et quel que soit le genre, complètement imbriqués et imprégnés du contemporain. Ça, c'est un autre aspect intéressant, c'est-à-dire, par exemple, Caro, donc il y a eu ce roman où tu as vraiment questionné l'ado que tu étais, et tu étais au cœur de cette rébellion adolescente très forte que tu as poussée très loin quand tu étais ado. Mais il y a aussi, à travers la littérature, ce questionnement du monde qui t'entoure et des ados d'aujourd'hui dans leurs différences, et que tu explores justement dans Neb, où tu es dans ce rapport au numérique, ce rapport à... Voilà, je ne sais pas si je lis un extrait ou si juste tu réponds d'ailleurs, parce que je ne sais pas si on a le temps, mais...
Bah, juste pour revenir là-dessus, tu disais pourquoi on écrit pour les ados. D'après mon adolescence, c'est vraiment un projet personnel. J'avais besoin d'écrire ce livre, et d'ailleurs, c'était tellement intime que je ne me suis pas dit que ça allait être publié. Je me suis dit, tu l'écris, ne pense surtout pas à la publication, et donc je ne l'ai pas écrit en pensant aux ados d'aujourd'hui, d'après mon adolescence. J'ai écrit ce que je devais écrire vis-à-vis de ma propre adolescence. Neb, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'après, je pourrais décider d'écrire effectivement en littérature générale. Pourquoi continuer à écrire alors pour les ados, tu vois, c'est la première question que tu posais. Et là, vraiment, c'est des questions que je me pose à chaque fois. Si j'écris pour les ados d'aujourd'hui, alors je prends en compte pour moi le numérique. On ne lit pas aujourd'hui comme nous on lisait. L'attention n'est pas la même, le rapport à la narration est différente, l'image est bien plus envahissante. Je pense qu'on a affaire à des ados beaucoup plus passifs, tout cas c'est ce que j'entends de la part des instituts et des profs et ce que je remarque en classe. Je pense qu'on a des jeunes lecteurs qui sont plus habitués à la narration des séries télé. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, systématiquement, mais vraiment à toutes les rencontres, une des premières questions, c'est alors, c'est quand le tome 2 ? Et je leur dis, il n'y a pas de tome 2. C'est une histoire, elle est ouverte, une histoire, vous en saisissez, c'est votre imaginaire qui prolonge. Eh bien, ce n'est pas évident aujourd'hui. Je pense vraiment, et ce n'est pas un jugement que je fais, c'est comme ça, ils vivent dans leur époque. Pour eux, ils attendent la suite, tout le temps, et ils attendent qu'on vienne leur apporter la suite. Et ça, moi, ça m'intéresse de continuer à écrire pour les ados, mais en gardant ça en tête, en disant, alors, qu'est-ce que je vais écrire qui prend en compte leurs besoins ou leurs demandes ou leurs habitudes? Comment est-ce que je vais peut-être les déboussoler un petit peu? Parce que je continue systématiquement à faire des fins ouvertes, justement. Mais mettre, par exemple, des illustrations dans Neb. Quand j'écris pour les ados, j'écris pour tous les ados. Et je pense qu'il y a un risque aujourd'hui. Ce serait d'écrire pour les ados qui continuent à lire. Et ça veut dire, pour moi, je schématise, hein, je suis obligée de faire un peu toujours, mais provoquer un peu la discussion, mais ça veut dire on écrit donc pour une élite. Si on continue à se dire, on écrit des romans comme on a envie d'en écrire et comme on les lisait il y a 20 ans. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Si j'écris pour tous les ados, il faut que, voilà, même qu'un ado qui n'aime pas lire, qui pense qu'il n'est pas fait pour la littérature, puisse entrer dans l'histoire. Et donc, ça m'amène à réfléchir effectivement aux ados d'aujourd'hui, au numérique. Et c'est aussi devenu à la fois un défi et un intérêt intellectuel. Donc, il y a le personnel, il y a le côté sincère. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Et après, le fait de continuer à écrire en ado, c'est conscient, tu vois, c'est un choix de dire, si je continue à écrire en ado, alors je prends en compte les ados d'aujourd'hui. Et je ne vais pas juste leur dire à vous de lire, à vous de... Non, qu'est-ce que moi je leur propose? Je pense que ça doit venir de nous, de leur donner envie de lire. Quel livre est-ce qu'on écrit? Quel livre est-ce qu'on crée et qu'on édite aujourd'hui pour ces ados-là?
Et donc après, d'une certaine manière, est-ce que toi, dans le fait d'écrire pour les ados, t'aides à mieux comprendre aussi le monde qui t'entoure? Dans ce cas-là, si tu enquêtes pour... Tu vois, parce que c'est ça aussi, du coup. C'est-à-dire que l'écriture répond à notre curiosité du monde, mais aussi peut-être t'aide à mieux l'accepter ou mieux le comprendre. Mieux le comprendre, ce qui n'est pas pareil que mieux l'accepter. Mmh. Est-ce que ça te le fait mieux accepter ou est-ce que ça te le fait mieux comprendre?
Je me suis mise vraiment par hasard à mon premier livre, La pyramide des besoins humains. C'est un SDF qui participe à une émission de télé-réalité. C'était il y a 15 ans. La télé-réalité nous paraissait complètement dingue. On se dit, ça n'a jamais marché, c'était fou, qui ça va intéresser? Bon, 15 ans plus tard, on le fait en permanence. Je suis arrivée sur le numérique, je ne sais pas, un peu par hasard avec ce premier roman, et les derniers romans traitent beaucoup des réseaux sociaux, de notre rapport au numérique. C'est ce que je déteste, pas le plus dans cette société, parce qu'il y a des choses dramatiques, mais c'est un thème où je ne suis pas à l'aise. Je me méfie du numérique, je suis angoissée sur l'intelligence artificielle, etc. Donc j'ai pris une matière qui me pose problème, effectivement. J'ai besoin de comprendre comment aujourd'hui on passe plus de temps devant un écran qu'à se regarder dans les yeux, qu'à parler, où va notre empathie, etc. etc. Je ne vais pas vous refaire tout le... Mais ça me pose problème. Je ne sais pas si, je sais pas comment vivre moi-même dans cette société-là. En plus, j'écris. C'est embêtant. Parce qu'on est quand même très impacté. Et donc, je prends une problématique. Je n'ai pas de réponse à cette problématique. Et j'ai besoin de passer par la fiction et par l'écriture pour essayer ou de la comprendre ou de l'accepter. Il y a effectivement les deux qui sont un peu mêlés.
Ok, oui, ça, c'est intéressant. Et du coup, Flore, dans ce truc de réécrire aujourd'hui et questionner le monde, j'ai vu que tu as rajouté évidemment beaucoup de féminisme dans ton écriture, et notamment, et c'est ça que je trouve très intéressant chez toi, c'est vraiment, en fait, le corps est omniprésent. J'ai relu du coup et je me rends compte,
bossé, bravo.
Je me rends compte à quel point le corps est omniprésent, et notamment vraiment la destruction de toute une vision du corps féminin qui est vraiment énorme en fait dans ce que tu écris. Donc je vous montre juste un tout petit exemple. Il faut changer les lunettes. Alors, Donc, Les six jeunes filles, donc ce roman de 18 enfants qui est construit à travers plein de points de vue de personnages différents et parfois même d'un groupe de personnages. Voilà, elle peut être dans le jeu, dans le nous du père de certains. Voilà. Donc, pour vous montrer ce rapport au corps, et je trouve que c'est intéressant parce que là aussi, on est au cœur de en quoi aujourd'hui tu écris avec ce que la société te permet d'écrire, qui aurait été interdit à une autre époque aussi, certainement, et aussi comment tu vas justement questionner là où il y a des choses qu'il faut questionner, qu'il faut bousculer chez les ados d'aujourd'hui et chez les adultes aussi d'ailleurs. Donc juste, je lis un petit exemple. Une corde, nous avons été bien cruches, un symbole d'union. Ils ne savent pas ce qu'est un réel attachement. Nous sommes six, nous nous soutenons et nous protégeons, et nous n'avons jamais eu besoin pour cela de nous attacher. Non, ce n'est pas possible, nous nous trompons. Ils ne peuvent pas être aussi cruels. Ils auraient depuis le début joué un jeu, alors que nous les avons accueillis. Nous nous sommes occupés d'eux, nous avons partagé nos écuelles, et pourtant, leur regard perfide ne nous trompait pas quand ils ont brandi cette corde avec laquelle on muselle les bêtes. Mais alors, et le village, que se passerait-il s'ils nous conduisaient les poings liés? Est-ce donc vrai? Nous y serions traités en sorcières, on nous jetterait des pierres, on nous mettrait au cachot. Ils avaient donc raison, nous sommes si différentes des autres filles, trop velues, trop grandes, trop laides et denturées, monstrueuses. Je m'arrête là.
Sur cette interrogation. La question, c'était sur le corps?
Oui, en fait, et sur le corps, mais sur aussi comment tu te dis que justement, par le conte, tu vas déstructurer, tu vas déconstruire. En fait, c'est-à-dire cette idée de en quoi la littérature ado, avec toi en tout cas, va déconstruire, avec toutes, hein, mais va déconstruire des archétypes. Tu pars d'un truc qui est très archétypal, qui est le conte, qui est un conte qui a vraiment existé, mais pour déconstruire, donc quelque part, c'est très sociétal, c'est très contemporain.
Oui, alors le corps est déjà très très présent dans les contes. Hein, plus dans les versions oralisées des contes. Perrault a pas mal épuré, mais si on revient aux versions orales, on a les jeunes filles qui se coupent le talon dans Cendrillon pour pouvoir enfiler la chaussure, les jeunes femmes sans main, enfin voilà. Il y a beaucoup de mutilations, c'est souvent des mutilations du corps féminin. Il y a beaucoup de dévorations, il y a des personnes dans des estomacs, il y a le petit chaperon rouge qui mange sa grand-mère en soupe, enfin voilà, il y a vraiment... Non mais c'est hyper intéressant parce que c'est des récits qui étaient en phase avec aussi ces réalités d'époque très, très chargées de tripes, des corps morts qu'on voyait, qu'on ne voit plus, des corps malades, etc. C'est marrant parce que je fais des romans qui sont assez, assez soutenus, je pense, dans la langue, et j'ai régulièrement des personnes qui sont étonnées d'y trouver beaucoup de corps, qui me disent « Ah, j'étais étonnée, il y a des tripes, il y a du sang », et je dis « Bah oui !» L'un n'empêche pas l'autre, en fait, c'est du conte, et puis disons, d'avoir un style travaillé, ciselé, un peu fin, comme moi j'essaye de faire, et aussi très imagé, n'empêche pas derrière d'y mettre de la sueur et du sang. Les deux ne s'opposent pas, au contraire, c'est assez intéressant d'aller travailler ça. Donc je l'ai toujours fait. Dans De délicieux enfants, les garçons, à un moment, présentent deux images très archétypales, effectivement, de la jeune fille dans les histoires. Et donc elle a, je dis, les cuisses transparentes. Enfin voilà, elle est très effacée, très sacrificielle, heureuse d'être brûlée vive. Martyr avec joie et en gardant le sourire. Et c'est vrai que les personnages féminins de délicieux enfants, mais elles sont présentées comme belles en fait. Elles sont fortes, elles sont costaudes, elles ont la peau brune, elles sont poilues, elles ont les mains larges, les pieds larges, et elles en font plein de choses en fait. Et c'était important de travailler ça. C'est vrai que là aussi, ça nous manque quand, en tant que lecteur. Et de célébrer le corps, pas seulement par l'apparence, mais parce qu'il est capable de faire. Mais je fais ça depuis le début. J'ai des héroïnes qui sont capables de digérer les cailloux tellement elles ont un bon estomac. J'aime bien cette idée-là, cette idée du corps solide et vaillant, plus que du corps éthéré, mais du coup, forcément, la jeune femme va s'évanouir à la première contrariété et mourir à 30 ans en s'étiolant sur un fauteuil, mais c'est romantique. Donc j'avais envie de remettre ça. On a des garçons costauds, aux larges épaules, solides, etc. C'est compliqué la jeune fille solide, et pourtant ça devrait être beau aussi.
Et pourquoi ce choix alors de reprendre des contes anciens plutôt que d'en inventer des nouveaux ?
Aucune idée. Alors, attends, non, mais je réfléchis.
Tu as raison. Ça ne me serait
pas venu à l'idée d'inventer un nouveau conte. Le conte est malléable, il a toujours été réadapté aux problématiques de l'époque et de ce qui était à la mode. Perrault, il les met par écrit et il enlève les triples sangs, la grand-mère qui est transformée en soupe et donnée, servie à sa petite fille. Tout ça, c'est pas beau, donc il l'enlève. C'est le classicisme et on va pas montrer ces choses-là. Nous, aujourd'hui, on a d'autres valeurs. Et donc c'est très intéressant de repartir de cette matière-là et l'adapter à ce qui nous intéresse dans notre société. Et bien sûr, on peut aussi créer de nouvelles histoires, ça marche aussi. J'aimais bien l'idée de retravailler un truc qui a toujours été retravaillé à l'image, cette fois, à l'aune de nos valeurs de notre époque.
Okay. D'accord.
Et puis qui fait partie, pardon, je me permets, d'une culture collective aussi et avec un regard féminin. Et après la psychanalyse, quoi. Donc c'est quand même très intéressant de donner ça une autre lecture. Il était une fois à hauteur d'adolescent. Moi, je trouve que c'est ce que j'adore dans ton travail, Flore.
Et j'arrive pas à combattre les héroïnes Disney. Hein, de toute façon, je me bats contre des moulins à vent. Enfin, quoi qu'il arrive, je fais dans mon coin. Mais les gamines de 6 ans aujourd'hui, elles sont à fond sur les héroïnes Disney.
La robe à paillettes rose, elle est encore là.
La robe à paillettes, les longs cheveux. Ont toujours autant de... Donc moi, avec mes héroïnes au grand bras, je fais pas le poids, quoi qu'il arrive. Donc je le fais, mais...
Oui, au grand bras et costaud. Au poil long.
Et aux grandes dents qui mordent. Ça, c'est...
Ah bah oui, pour ceux qui ont lu, vous savez, de Délicieux enfants, jusqu'où elle va dans l'inversion des genres.
Quoique dans Shrek, on a ça un peu. Hein.
Oui, j'allais dire. En fait, quand même, je grossis un peu le trait. On a voulu nous garder, mais même, ils ont fait Moana. Enfin, voilà, on commence vraiment à bouger sur l'archétype féminin. Mais c'est marrant, on a toujours quand même ce retour de bâton.
Et du coup, Flore, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans la réécriture de conte que tu n'avais pas trouvé en tant que lectrice dans le conte ou tu as eu besoin de l'écrire ?
Alors, faut quand même toujours redire hein, que c'est plus des contes. Enfin, quand moi je lisais les contes, j'étais petite. Le conte est court, si tu l'entends, c'est une soirée. Le roman, ça s'accompagne, on le lit en plusieurs fois. Enfin, donc, s'il m'a manqué quelque chose, c'est pas dans la lecture des contes. Les contes, je les ai lus enfant et je les ai pris comme ils étaient. Mais par contre, les romans, oui, moi j'ai grandi, enfin, de ma génération, il n'y a pas beaucoup d'héroïnes. Ça s'est inversé aujourd'hui. Hein. On a dans la littérature jeunesse, ça y est, il y a plus d'héroïnes que de héros. Par contre, je trouve qu'on a encore beaucoup d'héroïnes badass, en fait, des héroïnes qui sont des lancelots masculins, qui ont toutes les valeurs de loyauté et la grande épée qu'elles brandissent et les mêmes compétences guerrières. C'est intéressant, c'est bien. Mais on n'a pas encore complètement créé un archétype d'héroïsme féminin qui ne soit pas une copie exacte du Lancelot, du héros masculin qu'on a créé au 19e, enfin qu'on avait commencé à créer au Moyen-Âge et puis qui s'est vraiment installé dans le roman d'aventure du 19e. Mais parce que c'est normal, il nous faut du temps. Voilà.
Oui, d'où l'intérêt de la réécriture justement pour inventer finalement un nouvel héroïsme féminin. C'est peut-être plus intéressant de réécrire à travers des modèles anciens, parce que c'est comme ça que tu peux te dire que c'est ni l'inverse, ni la même chose au féminin, mais c'est autre chose. Et c'est une belle quête d'écrivaine, et c'est aussi une belle manière de proposer à des adolescents justement d'autres questionnements en fait de ce que c'est que la féminité, parce qu'au final, la littérature adolescente, par rapport à tout ce que tu disais aussi, Caro ou Joe, c'est que la littérature adolescente, elle vient questionner, en fait, je trouve, les adolescents, au-delà de leur asséner des vérités ou de leur asséner des certitudes. Nous-mêmes, on est en plein questionnement, en permanence, en tant qu'autrice, ce qui est normal, sur notre manière d'écrire, ou sur, qu'est-ce que c'est qu'une héroïne féminine aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a une seule, un seul type, ou voilà, ou qu'est-ce que c'est que... quelle est vraiment l'importance du numérique dans leur construction, ou... comment je peux trouver leur sincérité en étant dans leur chambre. Qu'importe, c'est du questionnement. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est de réussir à les questionner, c'est-à-dire à leur faire se dire, tiens, finalement, tout ce qui était et me semblait acquis ne l'est peut-être pas. Sans leur donner, parce que ça servirait à rien si on leur donnait. On sait très bien que quand on donne quelque chose, une réponse toute faite, ça marche pas, ça marche 10 fois moins. Donc déjà, pour moi, c'est le questionnement. Et ce qui est intéressant, Joe, dans ce roman notamment, c'est que tu les questionnes sur la politique. Or, les ados et la politique. Alors, les ados et le féminisme, dans un certain milieu, on a quand même un certain nombre de répondants en face de nous. Le féminisme est quand même, aujourd'hui, après MeToo, etc., on peut dire qu'on a quand même rarement une classe. Alors, on peut avoir du répondant hostile au féminisme. Et malheureusement, de plus en plus, on pourrait en parler. On a de plus en plus de, quand même, réactions dans, je pense, plus de la moitié des cas, plutôt hostiles au féminisme. Ouais, virilistes, masculinistes, qui commencent à, malheureusement, de plus en plus... arriver, mais avec quand même aussi des noyaux de filles qui n'osent pas forcément parler toujours, mais qui sont quand même aussi là. Et puis après, dans certains milieux, c'est acquis. Donc là, on sent qu'il y a un truc qui a été fait. L'écologie leur est aussi assez familière, les thèmes de l'écologie, etc. En revanche, la politique. Alors là, c'est quelque chose qui est absent chez les ados, ou alors de manière compliquée, parce qu'elle va être présente par des parents, par exemple, ou... ça va voter RN parce qu'on est dans un village où 80% des gens votent RN. Donc, dans un village où il y a malheureusement 75% des gens qui sont au RSA et ça vote RN. Bon. Donc, les questionner sur la politique, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas forcément ce que je fais directement à ta manière, mais ce que je fais quand même quand j'écris sur Louise Michel. Et Joe le fait de manière assez osée et assez directe dans ce roman. Parce qu'elle va vraiment donner la parole à deux jeunes, où ça décloisonne les genres, puisque c'est une histoire d'amour et une histoire de politique. Donc comment tu as osé faire ça? Comment tu t'es approprié ça, de parler de Proudhon, de parler de tous les philosophes marxistes...
Mathématiciens, Grothendieck...
Voilà, à des ados d'aujourd'hui qui sont quand même malheureusement détachés de la politique, alors qu'elle est au cœur de tout, en fait.
Je peux revenir sur je vais faire un lien, peut-être, Chambre ado et...
Tu peux faire tout ce que tu veux. au contraire.
Détachés de la politique. C'est vrai que dans Chambre adolescente, alors bon, là, c'est un petit panel, hein, puisqu'avec Juliette, nous avons rencontré 21 jeunes personnes de 12 à 19 ans. Donc, on ne peut pas dire que c'est une étude sociologique. Mais quand même, ça donne des petites couleurs. Et on voit très bien, au-delà de clairement Mathis, qui a 12 ans, qui a déjà fait, qui est dans la marche du climat avec Greta Thunberg, etc., très engagé. Les autres nous ont tous dit, ça sera pour plus tard. En fait, on ne sait pas trop, là, ça sera pour plus tard. C'est compliqué, la politique, aujourd'hui. Le collectif est très compliqué, on le sent. Il y a une très grande peur de cet engagement-là, parce qu'il ne... Ils n'ont pas vraiment de mouvement très tracé. C'est pas très traçable, la politique, aujourd'hui. Et la politique, j'emploie volontairement ce mot très souvent en rencontre scolaire. Faut dire, pour moi, c'est politique d'écrire en littérature jeunesse, et j'essaie de leur expliquer. Parce qu'ils ont un côté, le politique, c'est les politiciens, et c'est la magouille, et c'est les parents qui savent même eux-mêmes pas, et c'est ces gouvernements qui passent, et on ne sait plus trop. Ce qui est intéressant, juste par rapport à cette génération Z que j'ai interrogée, c'est qu'en ce moment, elle est très politique. Elle est dans les rues. Elle est au Maroc dans les rues, en Inde dans les rues, et elle fait bouger les choses. Elle a quand même fait bouger, elle commence à faire bouger le gouvernement. Et que réclame-t-elle? C'est ça qui est intéressant. Des droits sociaux, de la santé, l'école. Et c'est un peu ce que nous avaient dit aussi les jeunes garçons venant de Guinée. Comme dit Oumar, c'est merveilleux, la France c'est gratuit, l'école, je pourrais faire encore un CAP et encore un CAP. Il est venu parce qu'il n'y avait pas d'école dans son pays, en fait. Et Souleymane, qui a une conscience politique aiguisée, je pense qu'il est prêt un jour à retourner dans son pays pour faire de la politique. Il vient se former quelque part ici parce que rien n'est possible là-bas. Donc il y a quand même cette conscience politique. Il est vrai que par contre, en littérature adolescente française, peut-être, c'est pas si simple de s'y lancer. Moi, en écrivant en premier arrêt, je me suis clairement dit, on va en vendre deux. Voilà. Faut-il que j'arrête de l'écrire? C'est la vraie question aujourd'hui. Elle est aussi politique, hein, pour un écrivain. Qu'est-ce qu'on écrit? Pour qui? Osons-nous ne prendre le risque de ne pas avoir de lectorat si on n'est pas porté par nos éditeurs, par la presse, par... C'est des vraies questions aujourd'hui, je trouve fondamentales dans notre métier d'écrivain jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi, hein, et particulièrement anglo-saxons, avec d'autres façons de faire. Donc à nouveau, les sujets, comme on dit, touchy, le pas de vague, très à la mode en ce moment, comment on fait, quoi. Donc bah, il faut être futé, et c'est peut-être là où l'écrivain et l'artiste a toujours été inspiré, au moment où on a le moins de liberté d'expression. Il faut être un petit peu futé, aller chercher. Donc là, le roman, il a quand même quelques années, donc on est un petit peu, ça va très vite, mais on est un petit peu plus libre en 2019 ou 20, avant le... Voilà. Là, c'était, pour moi, c'était un roman d'apprentissage. Donc effectivement,
mais libre de quoi, du coup, en 2019?
Ah, je trouve que là, ça se durcit quand même. Ah, bah, déjà, les grands conflits mondiaux étaient moins proches de nous. Là, on parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup d'armes. Il y a eu effectivement le conflit israélo-palestinien aussi qui rajoute. Voilà, donc je pense que ça s'est enflammé un petit peu plus. C'est plus passionné. Voilà, on pouvait plus en parler simplement, sereinement.
On plus facilement. Oui, c'était moins proche. Donc c'était moins. On pouvait en parler plus facilement complètement. En 2019.
Ouais, ouais. Donc là, évidemment, mon héros, il vient du. Alors, j'ai cette chance d'avoir été une Parisienne qui habite en région, et je précise région, pas province, depuis 20 ans. Et c'est intéressant pour moi en tant qu'écrivaine parce que j'ai les deux points de vue. Donc oui, les villages RN, j'ai connu, les ronds-points et les gilets jaunes, j'ai connu, les Parisiens qui ne comprenaient pas les gilets jaunes, j'ai connu. Voilà. Donc c'est très intéressant pour moi, ça ajoute. Hein, et là, j'avais envie d'un garçon qui vienne d'un village de nulle part, d'un milieu social très défavorisé, très loin des grandes écoles, et qui est pris à Henri IV Paris en prépa maths sup. Voilà. Ouais, ça peut exister encore aujourd'hui un peu, demain je suis pas sûre. Et il est pris, et donc je vais mélanger ça, ce parcours d'excellence de l'école de la République, interrogé aussi là, sera-t-il possible demain, vraie question aussi. Mais ce n'est pas forcément un parcours choisi. Est-ce qu'on lui a laissé le choix à Pierre de faire ça? Parce que finalement c'est un bon élève, c'est le bon... C'est le bon génie, c'est celui qui va représenter aussi les professeurs et cette école de la République. Mais veut-il vraiment faire maths-p et veut-il vraiment partir loin de chez lui, faire ses études? Donc je le mets dans le train qui part là, et en plus il va croiser Olympe. Alors Olympe, qui est fille de médecin, beaucoup de chance, donc très engagée, très dans le collectif, dans le collectif, les squats, les philosophes. Elle lit effectivement Proudhon et il voit son livre dans le train. Alors en douce, il regarde sur son téléphone justement Proudhon et ça lui a... Voilà, ça, il est très brillant, donc ça, il se dit, j'y connais rien. En fait, c'est un bleu. Hein. C'est un bleu. Voilà.
Bah justement, ça tombe bien, ça rebondit avec le petit extrait auquel je pense, qui montre bien justement cette croisée dans la littérature adolescente entre l'intime, parce que c'est juste quand même juste des personnages ados avec tous leurs doutes et toutes leurs. Et qui rejoint l'intime aussi que tu as pu être toi quand tu étais ado. Et là, cette présence politique. Qui va quand même au bout du truc. Je vous montre un petit extrait. La question de Fabien l'oblige à prendre part à la conversation. Il se méfie de lui, même si Fabien n'a rien dit au sujet du lit de camp dressé dans la chambre d'Olympe. Que pense-t-il de l'autogestion des entreprises par les travailleurs? Telle est la question, et il n'a pas vraiment de réponse. Il se sent en haut du grand plongeoir de la piscine municipale. Tout le monde a sauté, tout le monde a réussi, c'est son tour. Il le regarde, il se sent tu et attend sa réponse. Plus rien dans sa tête, aucune idée, le vide, impossible d'avancer ni de reculer. Il faut qu'il saute, bon sang, qu'il se mouille, qu'il cesse de se dévaloriser. Donc là, ensuite, suit une liste de vraiment plein de révolutions et plein de révoltes. Et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est ça, à la fois tu peux parler de l'autogestion des travailleurs et à la fois tu peux être dans le cœur de ce doute d'un adolescent qui sait vraiment pas quoi répondre à tout ça. Donc t'es dans cette dualité qui est touchante et que j'aime beaucoup, mais qui permet aussi justement d'aller les questionner sur ces questions politiques qui sont au cœur au fait de notre travail et de notre engagement en tant qu'autrice aussi auprès des adolescents. Et je pense que plus la société évolue aujourd'hui vers des choses complexes qu'on ne peut plus nier, parce qu'on ne peut plus faire de déni de ce qui est en train d'arriver, plus le rôle qu'on a, nous, en tant qu'autrices qui écrivons pour les ados, on est forcément teinté d'un engagement qui est aussi politique. Au-delà de l'intime, au-delà du moral, au-delà de l'éthique, il y a quelque chose de politique dans la démarche d'écrire pour les adolescents aujourd'hui. Je pense que voilà, on peut pas. On y est toutes. Quand tu interroges le numérique, c'est totalement politique. Quand tu interroges le rapport au corps des femmes à travers le conte, c'est politique. Quand tu parles politique dans tes romans, c'est politique. Donc voilà, quand je parle de Louise Michel,
c'est sentimental, c'est la romance.
Mais non, voilà, donc il est 11h40, il nous reste 5 minutes avant d'avoir une petite pause et une super lecture qui va vous détendre après toutes ces réflexions, qui va être drôle, dynamique, d'une superbe nouvelle de Joe qui raconte la traversée de la Manche par Gertrude Ederle en 1926, et donc comme ça fera du bien aussi, ça va vous plonger ailleurs. Et justement, voilà, dans les 5-10 dernières minutes qui nous restent avant la dernière petite pause, avant la lecture, est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'en tant que, il y a sans doute beaucoup de bibliothécaires aussi parmi vous, vous devez avoir des questions vous aussi à nous poser par rapport à toute cette littérature, donc on peut prendre 10 minutes de débat si vous voulez.
C'est terrible hein, de ne pas avoir sa chambre. Son espace, on voit bien. Et une chambre, je pense à Asia, qui est une jeune fille, à nouveau une ado, dont ce genre de paroles, je ne l'avais pas entendue à la radio. Asia, qui est musulmane, qui décide à 15 ans de porter l'hijab et qui lit Rupicor, des poèmes féministes. Elle est très intéressante. Et à ce moment-là où je la rencontre, elle n'a pas de chambre parce qu'elle vit dans un tout petit endroit avec sa maman. Et finalement, nous allons. Je vais lui dire que la chambre n'est qu'un prétexte. Mais effectivement, ouais, leur chambre. La question, c'était, pardon. Oui, d'autres chambres que la sienne, c'est l'idée aussi avec c'est d'autres vies que la sienne. Et c'est, je pense, aujourd'hui très important, je me le dis aussi pour moi, ça passe toujours par soi, hein, on commence à se poser la question soi-même, mais aujourd'hui, d'autres vies que la mienne me sont importantes. Retrouver des moments d'échange, de pouvoir discuter, dialoguer, de se dire que finalement, peut-être on a de la chance aussi. Quand je pense aux jeunes mineurs isolés là, qui sont venus à pied et qu'effectivement, je pense à Souleymane qui n'avait jamais eu de chambre. En fait, il y a des cultures aussi où on n'a pas deux chambres à soi, on a des petits espaces ailleurs à soi. Mais ouais, des invités aussi, sans doute. J'aurais adoré travailler aussi en centre éducatif, voilà, mais bon, on ne pouvait pas tout faire. Mais j'aurais aimé aussi aller dans une chambre de personnes handicapées, mais je n'ai pas voulu faire de casting. Les jeunes sont venus à moi, mais j'aurais été très intéressée.
Et tu vois, je n'avais pas fait le lien, en fait, c'est parce que vous parlez de ça, les chambres adolescentes et le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de chambre. Quand ils ont l'impression d'être partout.
La chambre est ouverte, en fait.
La chambre est très ouverte, enfin, mais quand une chambre est si ouverte, je pense que tu n'en as pas vraiment. Ça, c'est peut-être une piste de réflexion, mais qu'est-ce qui fait que le virtuel, finalement, est parfois si oppressant, ou parfois laisse un sentiment de vide entre avoir une chambre, ou alors il faut être capable d'avoir une chambre à soi symbolique, tu vois, intériorisée. Et donc, quand tu parles d'écriture politique, effectivement, venir parler d'écriture et, par exemple, moi, une des questions que posent les jeunes, c'est pourquoi alors vous avez écrit avec ChatGPT ? Et pour eux, c'est une évidence. Enfin, c'est vraiment une question très sérieuse, quoi, de leur part. Mais je comprends pas pourquoi vous avez pas écrit avec ChatGPT. Je veux dire, c'est si facile. Au début, j'étais un peu vexée parce que c'était, vous êtes vraiment idiote, quoi. Pourquoi vous avez passé un an à écrire ce que vous auriez pu faire? Et donc, c'est politique, parce que là, il faut parler de quoi? D'écriture. C'est quoi l'écrire? C'est quoi être humain? C'est être différent de l'autre. L'écriture, c'est exprimer sa particularité vis-à-vis de l'autre. Donc je leur dis, on fait le même livre avec ChatGPT, on a tous le même livre. Et donc, je sais pas, tout ça m'évoque ça. Tu vois, la chambre, oui, tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux, mais qu'on a à soi?
J'ai une petite... Véritablement. Pour rebondir à ce que tu dis, j'ai posé une question à ChatGPT, parce que quand même, je pose des questions pour voir. Et je lui ai demandé en quoi, quelles seraient les compétences humaines que lui ne pourrait jamais avoir. Il m'a répondu la créativité. Donc.
Après, je pense que justement, effectivement, le ChatGPT qui a explosé depuis un an dans nos rencontres, c'est vraiment un an. Hein. Là, vraiment,
oui, la différence. Printemps dernier. Ouais.
Ça date de ça, c'est-à-dire que ça y est, il y a un avant et un après cette année. C'est indéniable. On peut vraiment le dater. C'est impressionnant. Je pense que ce qui est intéressant et d'autant plus intéressant dans leur fait de leur parler d'écriture et d'aller c'est de leur montrer aussi l'effort, l'importance de l'effort et l'importance de se construire par l'effort. Parce que moi aussi, là, effectivement, là, c'est récent, c'est des ateliers d'écriture à animer et je leur dis n'utilisez pas ChatGPT parce qu'en fait, ça vous sera moins utile pour vous, pour l'adulte que vous allez devenir. Parce que vous n'allez pas passer par la construction, la réflexion, l'effort que demande l'écriture. Donc effectivement, vous prendrez moins de temps, ça sera plus facile, et puis bon, ça sera effectivement en plus lisse et tous pareil. Mais par ailleurs, n'oubliez pas l'importance de construire vos cerveaux, etc. Donc là, l'écriture, on est au cœur de ça, on est au cœur de qu'est-ce qu'on veut devenir, comment on veut devenir, comment on veut grandir, et comment on veut se servir de nos cerveaux. Donc voilà, effectivement, après, il y a l'humain derrière. En effet, il y a cette idée de l'écriture, c'est des humains pour qui ça donne sens d'écrire. ChatGPT, ben non. Voilà. Donc il y a ça. Mais il y a aussi, pour eux, concrètement, dans ce moment, dans cet âge, où on a toujours ce truc d'envie de flemme, où on peut toujours avoir... Ben non, en fait, pensez, n'oubliez pas que vous êtes en devenir et que vous êtes en train de... Voilà. Et ça, tout ça, effectivement, l'écriture vient l'incarner, les rencontres avec les auteurs et les autrices viennent l'incarner. Donc c'est important qu'on aille les rencontrer, ces jeunes, en tant que créateurs, d'ailleurs créatrices, quel que soit l'art. Tu voulais rajouter le dernier mot ? Non. Alors, comme il est l'heure et que nous avons dans 10 minutes une lecture avant d'aller manger, je vous propose une dernière petite pause. Je vous dis merci pour votre attention. Merci les filles.
Merci. Vous avez été super.